En coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour, Vésuve, Etna, Mont-Sainte-Hélène, Piton de la Fournaise ou encore Montagne Pelée, les volcans constituent peut-être les plus fascinants édifices que la planète ait jamais engendrés, à la fois menace et terre nourricière pour les habitants qui se sont installés sur leurs flancs. Dans la retransmission de la conférence de Claude Jopard, que vous allez entendre dans quelques instants, le géophysicien, directeur de l'Institut de physique du globe de Paris, membre de l'Académie des sciences, s'intéresse non pas à la surface des volcans, mais à leur plomberie, comme il les appelle. Les volcans ont en effet des sources profondes, de plusieurs dizaines de kilomètres, basées sur la distribution des points de sortie de la lave. Alors comment et pourquoi des systèmes de réservoirs horizontaux mais également verticaux se développent-ils? Voici les questions auxquelles répond Claude Jopard lors d'une conférence publique qui était organisée par le Bureau des Longitudes. C'était à l'Institut de France le 2 avril 2008. Nous vous invitons à télécharger sur notre site le support visuel de la communication de Claude Jopard pour mieux comprendre ses explications. Bon voyage souterrain en sa compagnie.
Je voulais vous parler de plomberie volcanique puisque c'est un sujet qui est rarement abordé. Alors, il y a deux manières de voir le problème. C'est d'une part avec la géophysique pour détecter quelles sont les conduites et les réservoirs qui alimentent les éruptions volcaniques. Et puis l'autre vision qui est la vision des mécanismes qui agitent ce système finalement de mécanique des fluides, avec des fluides qui circulent, qui s'accumulent et qui peuvent passer jusqu'à la surface. On sait toujours que les volcans sont alimentés depuis des sources assez profondes qui sont situées sous l'écorce terrestre. Alors ça dépend des endroits, mais c'est à quelques dizaines de kilomètres sous nos pieds. Et puis, on sait que la lave monte, finit par séjourner plus ou moins longtemps dans un réservoir. Alors, plus ou moins longtemps, toute la question est là. Le réservoir principal dans lequel ces magmas se différencient, parce qu'ils cristallisent, et donc il y a une progression au cours de la cristallisation vers des magmas de composition de plus en plus, qu'on va appeler évolués. Et puis, parfois, des réservoirs dits secondaires. Alors, encore une fois, cette image-là n'est pas basée sur une géophysique de détection. Ce n'est pas parce qu'on a été capable, par exemple, de faire de la sismologie et qu'on a vu ces zones. C'est basé uniquement sur, d'une part, la distribution des points de sortie de la lave, qui sont répartis parfois sur d'assez grandes distances, et puis, d'autre part, sur la composition chimique des laves, sachant que les laves doivent se différencier et changer de composition. Parfois, lorsqu'on voit des changements de composition brutaux, on les attribue à des phénomènes de mélange brutal entre un réservoir et un autre. Et donc, c'est basé essentiellement sur ces histoires de composition. La question que pose ce type de schéma, c'est d'une part, est-ce que c'est manifestement un système qui met du temps à se développer? Comment un tel système pourrait se développer? Deuxièmement, est-ce que c'est la seule manière de voir les choses? Est-ce qu'on a des réservoirs qui sont plus ou moins étendus, avec uniquement des montées essentiellement verticales de magma? Je vais vous montrer que ce n'est pas le cas. Donc dès lors qu'on comprend que le magma peut se propager à la fois horizontalement et verticalement, les choses changent radicalement. Dieu merci, maintenant, depuis, disons, à peu près une vingtaine d'années, on dispose d'observations systématiques sur des systèmes volcaniques qui sont maintenant éteints, mais qui ont connu une longue histoire. Donc ça permet d'une part de replacer l'évolution du système volcanique dans le temps, avec des bonnes datations, et on va voir qu'il y a quelques systématiques qui émergent. Donc ce que l'on voit dans ce système-là, donc maintenant c'est un volcan qui est éteint, qui n'a pas fait d'éruption depuis, si je me souviens bien, 50 000 ans. Le point important, c'est que tout à travers l'histoire du volcan, les basaltes sont émis par le système volcanique, quelle que soit l'histoire. Donc de temps en temps, le volcan peut émettre des basaltes, mais on verra que ce n'est pas au même endroit. Et puis simultanément, il peut faire des éruptions avec les termes plus évolués. Donc il faut voir le système de plomberie souterrain comme étant alimenté sans arrêt par des magmas qu'on va appeler primitifs, les basaltes. Et puis, vous voyez que très rapidement, il y a une différence très nette entre les points de sortie des laves évoluées, qui en général se retrouvent confinées au voisinage de gros édifices volcaniques, et puis les termes primitifs, les laves les plus primitives de composition, disons, modifiées, qui peuvent sortir relativement loin de l'édifice. Donc les questions que ces observations posent, c'est tout simplement, d'abord, on sait qu'un réservoir se forme, puisqu'il va falloir faire cristalliser le basalte pour former ces laves andésites et dacites. Donc qu'est-ce qui arrête les magmas primitifs? Mais si ça les arrête, pourquoi ça ne les arrête pas partout? Et pourquoi ces magmas primitifs peuvent aussi sortir à la périphérie? La deuxième chose, c'est pourquoi la majeure partie de l'activité volcanique reste-t-elle concentrée dans la zone axiale? Pourquoi est-ce que finalement la majeure partie des laves, au cours de l'histoire du volcan, finit par sortir au même point quasiment et pour former un même édifice? En général, les systèmes volcaniques font partie d'un plus grand ensemble. Le mécanisme de propagation des magmas, c'est la fissuration hydraulique dans les corps terrestres. Et que la fissuration hydraulique, par définition, ce sont des fissures qui se propagent à la fois verticalement et horizontalement. Dans certains cas, le magma n'arrive pas tout à fait à la surface, et on verra dans quelles conditions. Donc le comportement des systèmes magmatiques et volcaniques, comme je vous le disais, il a surtout été discuté en fonction de la composition du magma et de la concentration d'éléments volatiles. C'est normal puisque, je vous reviendrai là-dessus un petit peu, la composition du magma bien détermine les propriétés rhéologiques du magma et sa densité. Rhéologique, ça veut dire essentiellement la viscosité, la plus ou moins grande facilité qu'a le magma de s'écouler. La concentration d'éléments volatiles, ça détermine la plus ou moins grande explosivité des éruptions, donc évidemment des phénomènes très importants. On a discuté aussi des propriétés mécaniques des roches encaissantes, savoir si elles étaient plus ou moins cassantes, plus ou moins élastiques. On a souvent discuté aussi le champ de contrainte ambiant. Les volcans sont dans des zones tectoniquement actives, c'est-à-dire qu'il y a un champ de contrainte qui est déterminé par la déformation à grande échelle. Et ça, ces points-là ont été abondamment discutés. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Puisque je m'intéresse au comportement d'un système volcanique plus particulier, je vais m'intéresser au champ de contrainte plus local. Et je vais vous parler de la charge de l'édifice volcanique. Donc ça a été négligé, et je vais vous montrer que, un, ça n'est pas négligeable, et deux, que ça peut permettre d'expliquer beaucoup de choses. Le point important, c'est que l'édifice volcanique se construit au cours du temps. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a un lien intime entre la manière dont le magma se propage et la manière dont l'édifice se construit à la surface. Donc à l'envers, si j'ai une bonne connaissance de la manière dont l'édifice se construit, je peux avoir une très bonne idée de ce qui peut se passer en profondeur. Il y a une logique très simple. Donc je vais vous montrer un certain nombre de concepts simples sur ce que fait un édifice à la surface, et puis ensuite je reviendrai sur la manière dont ça peut agir sur la propagation des magmas. Donc ici, il faut imaginer qu'un édifice, on va reprendre ça comme un cône, on va prendre la projection d'un milieu élastique, on va prendre un milieu élastique avec ou non un réservoir, mais le point important, c'est de savoir comment peut se comporter le réservoir, comment peut-il se former. Si un réservoir se forme, c'est-à-dire que les laves n'arrivent plus à la surface, forcément. Donc on va se poser toutes ces questions à partir de modèles qui sont des modèles élastiques. On va s'interroger aussi aux conditions dans lesquelles les magmas peuvent être éruptés, donc dans quelles conditions on peut faire rompre, fracturer les roches du socle. On va reprendre maintenant les choses à zéro. On va voir comment se propagent les magmas en profondeur. Donc la propagation verticale du magma, pour simplifier, on va voir qu'on ne peut pas séparer propagation verticale et horizontale, on va traiter les deux cas, mais pour l'instant, intéressons-nous essentiellement à ce qui se passe sur la verticale. Eh bien, il faut faire circuler un fluide. Le fluide, il est régi par les différences de pression. Donc la propagation verticale va dépendre de la pression à la source, et puis la densité du magma et la dissorption des contraintes avoisinantes. Donc la densité du magma, ça peut donner au magma une force d'Archimède, qui le propulse à l'eau, c'est l'effet majeur. La distribution des contraintes, on verra que ça joue pour la plus ou moins grande facilité qu'a le magma à se frayer le chemin vers la surface, c'est-à-dire à s'ouvrir les fissures qui vont lui permettre de bouger. Donc la première conclusion, c'est que les édifices volcaniques empêchent les magmas primitifs les plus denses d'arriver à la surface. Donc ces magmas doivent s'accumuler dans un réservoir, c'est obligatoire s'ils ne passent pas, ou ils se propagent horizontalement pour ressortir à une distance de l'axe. Donc il va falloir qu'on sache dans quel cas ils peuvent s'accumuler, dans quel cas ils ne peuvent pas s'accumuler, parce que s'ils ressortent très loin de la surface, très loin de l'édifice, mais à une certaine distance, eh bien ça ne change pas le problème, ils ne peuvent pas s'accumuler. La deuxième question, c'est que si j'ai fait un édifice et que si j'empêche les magmas d'arriver à la surface, à travers l'édifice, comment est-ce que je peux continuer à faire des édifices? Donc maintenant, on va regarder quelques principes de propagation horizontale. Donc j'ai montré que les dikes, on les voyait se propager sur l'horizontale. Rappelez-vous par exemple le cas de Shiprock dans l'Arizona, cette gigantesque fissure qu'on avait vue à la surface, maintenant dégagée par l'érosion. Je vous montrerai des calculs qui sont faits avec des fissures hydrauliques, donc c'est des choses qu'on sait faire. Je ne vais pas vous discuter de la théorie qui est derrière. Grosso modo, ce n'est pas si simple que ça parce qu'il faut tenir compte de trois effets. D'une part, la déformation élastique des roches. Deuxièmement, l'écoulement du magma qui est associé à une perte de charge. Ce sont des fissures qui ne sont pas très larges, donc c'est important de déterminer la perte de charge qui est liée au frottement dans le magma visqueux qui s'écoule. Et puis aussi, les conditions de fermeture des fissures. Donc on a pris ce qu'on appelle le cas de la théorie linéaire des fissures avec un facteur d'intensité de contrainte en bout de fissure. C'est une théorie qui est très valable pour les choses près de la surface et qui n'est peut-être pas très bonne à très très grande profondeur, mais c'est une théorie qui permet de fermer les systèmes et de donner les conditions limites qui permettent de traiter le problème. Donc je vous montrerai ici le cas, pour fixer les idées, de magma qui se propage à l'interface entre, par exemple, un socle dense et puis une couverture sédimentaire plus légère. On discutera après des cas de figure différents. Donc le magma a une densité intermédiaire entre les deux, c'est pour ça qu'il est coincé à cette interface et il se propage horizontalement dans ces conditions. Mais puisqu'il se propage, il y a des gradients de pression, donc il va avoir, au fur et à mesure qu'il se propage horizontalement, il va aussi s'étaler verticalement. Donc la question est de savoir si il s'étale verticalement suffisamment, il peut se propager, certes, mais il peut aussi ressortir à la surface puisqu'il peut grossir aussi sur la verticale. Alors je vous montre d'abord une théorie qui a été faite par John Lister en 1990, puis je vous montrerai après la théorie qu'on a faite pour l'effet de l'édifice. Donc je vais vous montrer comment se propage un dike. Donc c'est une coupe verticale. Ici, le dike est émis à la source qui est en zéro. Donc je vais vous montrer la distribution de la pression dans la pression élastique, c'est-à-dire la pression qui est disponible pour ouvrir les roches. Et c'est-à-dire que par rapport à la pression totale, j'ai retiré la perte de charge qui est liée à l'écoulement du magma. Donc c'est uniquement la composante qui permet de déformer les roches et de les ouvrir. Tout a été normalisé, donc ne faites pas attention, T c'est le temps. Donc ça dépend de la normalisation et l'échelle de temps, ça dépend de la viscosité des laves et du débit qu'on a imposé à l'origine. Mais c'est des facteurs de multiplication. Tous les cohortants sont identiques. La seule chose qui change, c'est la normalisation. Donc l'échelle de temps changerait d'un cas à l'autre. De même pour toutes les coordonnées, horizontales et verticales. Donc le message, c'est que le magma le plus dense est maintenu à des profondeurs plus importantes, sur des épaisseurs plus importantes. Donc ça favorise le stockage. Et ça n'est pas favorable à la propagation horizontale pour un volume total donné. Donc voilà, j'ai terminé pour vous dire que vous voyez que c'est la première partie de cet exposé. Mais vous voyez qu'il y a une logique très simple sur, d'une part, la distribution des laves, l'évolution dans le temps des points de sortie et la construction de l'édifice. Donc le message, c'est que ça peut être un petit peu compliqué de voir toutes ces pressions, toutes ces densités. Mais le message important, c'est que l'édifice, lui, là, c'est finalement le paramètre de contrôle qui permet de comprendre la distribution des laves. C'est aussi donc le paramètre de contrôle qui me permet de savoir comment se développent les zones de stockage en profondeur. Et l'avantage, c'est qu'évidemment, l'édifice, je le vois. Donc l'édifice, c'est quelque chose que je peux mesurer facilement. Je peux même en reconstituer l'histoire. C'est pas si simple que ça à faire, mais on peut y arriver. Et donc, en reconstituant l'histoire de l'édifice, eh bien, j'ai l'histoire aussi du système de plomberie en profondeur. Donc maintenant, je vais terminer par deux questions différentes. C'est, première chose, c'est pourquoi il y a des éruptions qui continuent de se produire dans la zone axiale. Je t'ai montré qu'a priori, les magmas, quand j'ai un édifice imposant, les magmas primitifs, ils se stockent en profondeur dans un réservoir. Alors si j'ai un réservoir de très grande dimension, pourquoi est-ce que ce réservoir il n'alimente pas des fissures latérales? Pourquoi est-ce que ça continue de se produire à l'axe? Bon, ben évidemment, c'est évidemment à l'axe, c'est-à-dire sous l'édifice. Moi, je vous rappelle que c'est toujours des beaux systèmes avec des contraintes importantes induites. Donc on va regarder ce qui se passe maintenant avec un réservoir sous l'édifice. Donc, avant, supposer que je n'ai pas de réservoir, ça permet de... Dame, non, l'an 2000 avait regardé ce qui se passait simplement sous l'effet de l'édifice, la propagation de fissures d'un réservoir qui est très profond sous l'effet de contrainte de l'édifice, donc à des profondeurs bien plus importantes. Voilà. Donc, ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est où est-ce qu'ils sont, ces réservoirs? Donc, je vous avais dit au début, ben, on aimerait bien les déterminer directement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire vraiment? Où est-ce qu'ils sont, ces réservoirs? Je vais montrer au début des relations entre la position des réservoirs et la taille des édifices. Bon, ça avait été déterminé essentiellement sur la base de la pétrologie. C'était donc l'hypothèse de base de ces reconstitutions, c'est-à-dire la pression que je vais appeler pétrologique, c'est celle qui est déterminée à partir des minéraux qui coexistent dans la lave. Eh bien, c'est donné, c'est égal à la pression lithostatique que je peux transformer en profondeur facilement. Bon, ça n'est valable qu'évidemment que si le magma n'est pas en surpression. Or, par définition, les laves que je vois à la surface, c'est les laves qui ont fait une éruption. Donc c'est des laves qui étaient en surpression. Elles étaient en surpression d'une part parce qu'il a fallu qu'elles ouvrent des fissures hydrauliques, et puis d'autre part, il a fallu casser les roches du réservoir, et pour casser les roches du réservoir, il fallait qu'il y ait des surpressions. Donc par définition, je sais que ces pressions pétrologiques doivent être supérieures ou égales à la pression lithostatique. La question, c'est de savoir de combien. Et ça, c'est le problème, je ne peux pas faire ça uniquement à partir de la pétrologie, il faut que je considère maintenant la mécanique du système. Par exemple, le Mont Sainte-Hélène, qui est un volcan qui a fait une très belle éruption en 1980, qui a secoué, parce que c'était une région qui était dans un pays très développé. Bon, c'était une toute petite éruption, hein, mais l'avantage, c'est qu'elle a été très étudiée. L'avantage aussi, c'est qu'elle était, même si elle était dévastatrice pour les paysages, comme c'est une région relativement inhabitée, elle n'a pas fait beaucoup de victimes. Bon, mais après, ça a été très utile parce que plus loin dans la chaîne, par exemple du côté de la ville de Seattle, eh bien, il y a un autre volcan du même type. Et évidemment, une éruption analogue du côté de Seattle, ça ferait des dégâts beaucoup plus importants. Donc il y a eu beaucoup d'études de fait sur le Mont Sainte-Hélène. Alors ce que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce qui se passe dans un réservoir maintenant, qui est sous un édifice qui croît. Parce que ici, comme j'ai reporté les choses en fonction du temps, au cours du temps, l'édifice du Mont Sainte-Hélène, il est en train de bouger. Donc moi, c'est ça le point essentiel, c'est que je ne vais pas discuter les dimensions et profondeur du magma, la composition du magma, je vais simplement m'intéresser à l'effet de l'édifice lui-même. Et le point principal, c'est que l'édifice se construit et se détruit. Alors l'autre point principal, c'est que la construction, c'est lent, la destruction, c'est rapide. Et on verra que c'est important aussi, c'est une constatation évidente, mais ça, une chose aussi simple, ça permet d'expliquer beaucoup de choses. Donc je vous rappelle, je calcule la surpression du réservoir à la rupture, je peux le calculer, et ça, c'est cette pression-là que je vais enregistrer dans les minéraux, puisque c'est ça que je vais échantillonner. J'échantillonne les minéraux au moment où le réservoir casse, par définition. Dans tous les cas de figure, il y a une zone au début où quand je n'ai pas beaucoup d'édifices, ça ne change pas grand-chose, et puis quand l'édifice croît, eh bien, vous voyez que la pression devient de plus en plus grande. Donc c'est l'effet évident, c'est que quand je me retrouve avec un édifice qui est assez grand, et bien l'édifice il met tout le système en compression, et donc il faut une surpression plus forte dans le réservoir pour faire claquer les murs et pour faire une éruption. Donc ça permet à mon avis d'expliquer très simplement les observations que je vous ai montrées précédemment. C'est que ici, maintenant, je vais évidemment recaler les choses avec, je n'ai pas malheureusement de taille précise de l'édifice, mais je vais reconnaître les phases construction-destruction. Construction de l'édifice, la pression doit augmenter. Destruction de l'édifice, la pression doit diminuer. Très simple, c'est bête et méchant. La dernière chose, c'est que l'activité récente, eh bien, c'est très logique. Si j'ai raison, eh bien, ça, ces profondeurs d'après les phénocristaux, c'est toujours supérieur ou égal à la pression lithostatique d'équilibre, puisque c'est toujours un système qui est en surpression pour fracturer les roches. Donc c'est toujours des profondeurs qui sont surestimées. Donc je dois toujours avoir des profondeurs ici plus fortes que la vraie profondeur du réservoir. Je vous fais remarquer que c'est effectivement cohérent. La source de pression détectée par sismologie, elle est là. Et les dernières pressions enregistrées juste par l'éruption de 1980, eh bien, elles sont effectivement plus importantes. Et si je prends la meilleure estimation de la pression que je peux faire d'après le diagramme précédent, c'était la pression donc la plus faible que j'ai dans tout le cycle. Je vous rappelle que le Mont Sainte-Hélène, il s'est fait quand même décapiter. J'ai perdu à peu près 1000 mètres, donc c'est des effets qui ne sont pas négligeables. La destruction d'édifices, c'est important. Eh bien, si je prends la pression pétrologique la plus faible de toute l'histoire du Mont Sainte-Hélène, ça me ramène là. Et donc, c'est à peu près à 100 mètres près, c'est le même niveau que la pression détectée par sismologie. Donc, c'est assez cohérent. Donc, je vais terminer pour vous dire qu'on ne sait pas encore à l'heure actuelle bien détecter exactement où sont les réservoirs. Je vous ai montré qu'il y a différentes méthodes. La géophysique n'est pas facilement opérante parce que il faut beaucoup de sismomètres pour détecter des choses qui sont si proches de la surface et sur d'aussi petites distances, donc ça coûte très cher. Là où on le fait, on voit des sources plutôt relativement superficielles, je vous ai montré 6 km pour Mont-Sainte-Hélène. L'autre méthode, c'est d'utiliser la chimie des laves et la composition chimique des cristaux que portent les laves. Et vous voyez qu'il y a toujours des différences entre les deux estimations, mais ces différences-là, on peut les expliquer. Et la dernière chose que je vous ai montré, c'est que si je suis l'édifice en surface, ce que je peux faire parce qu'il est là, il est quand même plus facile à étudier que ce qui est en profondeur, eh bien je peux comprendre la logique de l'évolution du système magmatique en profondeur puisque les deux font partie intégrante du même système. Voilà, je vous remercie.
C'était Claude Jopard, géophysicien, spécialiste des volcans, membre de l'Académie des sciences, professeur à l'Université Denis Diderot et directeur de l'Institut de physique du Globe de Paris. Il s'exprimait ici dans le cadre d'une conférence organisée par le Bureau des longitudes à l'Institut de France sur la plomberie souterraine des volcans. Nous vous invitons à poursuivre l'écoute de nos émissions en lien avec le sujet de Claude Jopard. Trois confrères prennent la parole sur notre site canalacademie.com. Ainsi, Vincent Courtillot répond à nos questions sur les éruptions volcaniques et leur rôle dans l'évolution des espèces. Jean-Paul Poirier développe ses travaux sur le noyau terrestre. Et enfin, Paul Taponnier revient sur la déformation des continents et sur les séismes qui en découlent. Nous vous invitons également à consulter les prochaines dates des conférences du Bureau des longitudes à Paris. Elles sont publiques. Alors, plus d'informations sur le www.bureau-des-longitudes.fr. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles émissions.